Bonjour à tous et merci Eric pour tout ce que nous avons déjà reçu ce matin. Nous poursuivons avec l'évangile de Jean. Jean qui nous présente celui qui est venu pour nous montrer le Père. Celui qui nous parle du Père plus que quiconque. Il montre par ses actes et son amour le projet merveilleux qui est à notre portée. Dieu veut sauver l'humanité de la mort. Il confie au Fils la mission d'aller dans cette humanité pour lui dire que tout n'est pas fini en Éden. Une porte de sortie est possible pour vivre autrement, pour vivre autre chose. C'est avec des paroles puissantes et des actes extraordinaires que le Fils démontre l'amour du Père. Parmi ces actes posés, ces actes forts, du Fils au milieu des disciples, le lavement des pieds. Dans de nombreux courants religieux, cet acte est souvent posé. Et le texte que nous lirons ce matin va nous éclairer certainement sur le sens qu'il faut donner à cet acte. Le titre du message ce matin est « Servir par amour dans l'humilité ». Je vous propose d'étudier ces textes en deux séquences. La première comprend les versets 1 à 11. Elle est intitulée « Aimer jusqu'à l'extrême ». Et la deuxième a pour titre « Vivre l'humilité en famille ». Et ce sont les versets 12 à 17. Nous voulons lire la parole de Dieu en Jean 13, les versets 1 à 17. Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt de le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son enseigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Prions. Dieu notre Père, ta parole est puissante. Nous voulons être à l'écoute. Conduis-nous et qu'elle fasse l'effet pour laquelle tu nous la donnes ce matin, pour ta gloire. Amen. J'espère qu'en écoutant la première phrase de ce texte, vous ne vous êtes pas dit, mais les anciens du moniteur ont du retard dans leur agenda. Qu'est-ce que Pâques vient chercher ici? Nous avons fêté Pâques il y a plus d'un mois maintenant. Et l'écrivain Jean veut nous situer le déroulement des événements. Raconter une histoire dans son contexte est toujours plus facile à comprendre. Au-delà de raconter l'histoire de Jésus, Jean nous donne un premier indice. Son heure était venue. En Jean 7, 6, Jésus répond à ses frères qui lui demandent d'aller en Judée pour parfaire sa popularité. Il leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. » Dans notre service pour le Seigneur, il est un temps. Il y a un temps pour toute chose. Et celui qui est dans le temps de Dieu est dans le vrai. L'heure est venue pour Jésus de passer du monde au Père. C'est le moment bientôt de vivre la passion, le moment de vérité, sa raison d'être dans ce monde. C'est le moment de la délivrance de l'humanité prisonnière du péché. Ce moment est le plus tragique, le plus pénible. La douleur sera à son summum. Pourtant, c'est aussi dans ce moment-là que s'exprime l'amour sublime de notre Seigneur pour l'humanité. Jean 15, 13, il est dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » À regarder de plus près le texte ce matin, on est étonné par l'attitude de Jésus. Quel est cet homme? Le Père lui a tout remis, et pourtant il reste d'une simplicité incroyable. Et cela éveille notre conscience au fait que Dieu, le Père qui est omniscient, s'il a tout remis au Fils, ça veut dire que le Fils porte les qualités du Père. Et donc il sait précisément ce qui se passe dans le cœur de ses disciples en face de lui. Jean nous avertit que le diable avait commencé à œuvrer dans le cœur de Judas. Le cœur de Judas est habité par la pensée de trahir le maître. Désormais, Judas et le diable sont amis. Ils ont une même volonté, un même projet qui vise l'élimination physique de Jésus. Et Jésus le sait. Pourtant, Judas n'est pas exclu de ce groupe. Il continue de faire partie du groupe. Il a même des responsabilités sur le plan financier. Et comble, Jésus lave les pieds de Judas. Le lavement des pieds à l'époque est une tâche réservée aux esclaves, les esclaves les plus méprisés. C'est un travail pour des esclaves païens. C'est une tâche humiliante. Au cours de ce repas, nous assistons à quelque chose d'incroyable. L'ordre logique, l'ordre normal est renversé. À aucun moment dans les évangiles, on ne voit les disciples même suggérer le fait de se laver l'un l'autre les pieds. Par contre, on les retrouve dans cette volonté, l'un d'être assis à droite ou à gauche de Jésus, en train de se disputer sur qui sera le premier. Jésus bouscule les codes de la société de son époque. Il ne se satisfait pas de l'injustice que les hommes ont établie. Lui, le maître, traite les disciples comme le maître devrait l'être. Philippiens 2, verset 6 à 7 déclare, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. En revêtant l'humanité, sur son chemin vers la croix, le juste Jésus revêt le péché. Ce dernier, le péché, subit la condamnation inhérente à son statut. Et on assiste ici à une forme de troc. Le péché est condamné et le pécheur repentant reçoit la vie éternelle. il est habillé de la divinité de Christ. Cet homme qu'est Jésus fait de nous des filles et des fils de son Père. Cette parole s'accomplit pour tous ceux qui écoutent sa parole et croient en lui. Ils reçoivent la vie éternelle. C'est le commandement du Père dont il est question à la fin du chapitre 12, comme nous l'avons entendu dimanche dernier. Jusqu'ici, alors que Jésus lave les pieds des disciples, l'un après l'autre, c'est le silence qui règne. Un silence pesant, un silence coupable, un silence gêné. Ils sont tous conscients que ce que le Maître est en train de réaliser n'est pas normal. Ça ne devrait pas être ainsi. C'est justement le contraire qui devrait se produire. Et pourtant, il accepte et se taise. Un seul va réagir, c'est Pierre. Avec son tempérament fougueux, il exprime une attitude empreinte de candeur et d'ignorance. Et Jésus, en bon pédagogue, lui fait comprendre que le temps vient où ce que le maître pose comme acte sera pleinement explicite. Pour l'instant, Pierre devrait accepter que le maître agisse comme il entend. Toutefois, Pierre insiste et Jésus se fait alors plus précis. Cet acte, en opposition aux pratiques de l'époque, vise à établir une relation particulière avec le maître. Elle traduit une profonde intimité, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors comment refuser ce merveilleux cadeau offert par Christ, cette purification qui est en cours. Le lavement des pieds est le symbole de la purification qui vient et qui sera pleinement réalisée à la croix. En effet, si Christ ne nous lave pas, d'où viendra le secours? Qui parmi les humains peut accomplir cet acte parfait de purifier le cœur de l'homme, si ce n'est l'Éternel? Mais au-delà de la purification, il est une question, je cite, « d'avoir part avec moi, dit Jésus ». Il y a un héritage dans cette idée d'avoir part, et nous voyons cela au chapitre 14 et versets 1 à 3. Jésus ne se contente pas seulement de signifier dans ces versets 6 le fait qu'une purification de la chair est inévitable. Il va plus loin en montrant que cette purification anticipative est fondamentale et unique. Elle n'a lieu qu'une fois. En effet, les péchés que nous commettons chaque jour doivent continuellement connaître le pardon du Seigneur. Toutefois, le salut accordé l'est une fois pour toutes. Le jour où tu rencontres Christ dans ta vie, le jour où tu reconnais ton péché devant le Seigneur, le jour où de tout ton cœur, tu le considères comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce jour-là, le salut t'est accordé. Mais tu continueras de pécher. Et alors chaque jour, tu demanderas pardon à ton Seigneur. Les disciples sont purs, dit Jésus. Éphésiens 2, 8 déclare, en effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Les disciples ont donc reçu anticipativement le bain nécessaire, répond Jésus à la question de Pierre, qui demande à être lavé des mains et de la tête. Cependant, Jésus ajoute immédiatement, mais pas tous. Vous êtes purs, mais pas tous. Jésus ne cache rien à ses disciples. Il ne fait pas semblant de ne pas voir le péché qui sommeille dans le cœur de Judas. On pourrait même penser que c'est une opportunité offerte à Judas, même après la trahison, de revenir vers Christ et demander pardon. Tous sont avec le Seigneur, tous sont dans la famille, mais tous ne sont pas purs. Jésus connaît ton cœur comme le mien. Une telle parole devrait nous mettre en mouvement vers le Christ, nous questionner sur le vécu de notre foi, sur notre relation, cette relation que nous entretenons avec Christ. C'est triste d'être dans une famille et pourtant de ne pas faire partie de la famille. Jésus a tout accompli pour nous témoigner son amour. Il meurt à la croix d'une manière infâme, humiliante, couvert de crachats des hommes, méprisé, chargé d'une couronne d'épines, assoiffé. Sur le bois, il reçoit du vinaigre pour étancher sa soif. Que faut-il de plus pour que tu acceptes cet homme qui donne sa vie pour la tienne, pour recevoir la vie éternelle? C'est toujours agréable de se retrouver en famille, n'est-ce pas? Dimanche dernier, j'entendais certains frères et sœurs dire « On pourrait refaire ça une prochaine fois. » Jésus nous donne un signe pour nous aider à vivre cette vie de famille de manière authentique. Et ceci nous conduit à notre deuxième thème, l'humilité en famille. Le lavement des pieds a eu lieu et s'achève par un échange entre Pierre et Jésus. Les autres disciples sont silencieux. Jésus pose la question, probablement pour que tout cela soit clair pour tout le monde. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il est juste de remarquer que le rite ne sauve pas. Au cours de ce repas, Judas est présent et Jésus lui lave les pieds. Et pourtant, Judas n'est pas sauvé. En tout cas, il meurt, suicidé dans le remords et la douleur. Seule la foi nous permet d'avoir accès à Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, disait Jésus à la foule venue l'écouter. Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce qu'elle trouve un écho favorable dans notre cœur? Combien de fois Judas a entendu ces paroles? Combien de fois Judas a entendu l'enseignement de Christ? Combien de fois? Pourtant, elle est restée comme cette histoire que l'on raconte aux enfants le soir pour les endormir. Jésus est en train de construire l'Église de demain. Elle devrait ressembler à ce que Jésus enseigne ici aux disciples. Il ne s'agit pas de prendre un jour dans l'année et de dire « nous allons nous laver les pieds les uns les autres ». Cela, à la limite, ne sert à rien. Ce que Jésus demande aux disciples, c'est de considérer les autres comme plus grands que soi-même. Ce qui m'interpelle dans ce texte, c'est que Jésus est en train de donner un enseignement au cœur. Ce n'est pas n'importe qui est présent. Ce sont les disciples, les douze, qui sont là. Ils sont réunis. Et Jésus donne cet enseignement. Nous savons que Jésus a donné de nombreux enseignements à la foule. Et vous aurez remarqué que lorsqu'ils se retrouvent en petits groupes, l'enseignement de Christ est beaucoup plus tranchant. Il est beaucoup plus pointu. Pourquoi? Parce que c'est ceux-là à qui Jésus s'adresse, qui demain devront porter cet enseignement aux autres. Ils ne doivent pas seulement enseigner, ils doivent vivre. Alors oui, comment ne pas se sentir personnellement interpellé? Lorsque je blesse mon épouse ou mes enfants par une parole ou une attitude, j'ai souvent du mal à demander pardon. J'ai tendance à me dire « laissons le temps passer, tout s'apaisera ». Et parfois, effectivement, personne ne dit rien. Et je peux avoir le sentiment que tout va bien. Est-ce que c'est cela que le Seigneur nous demande? Laissez le temps passer? Certainement que non. Je laisse passer le temps. Pourquoi? Parce que mon orgueil refuse que je m'abaisse et que je demande pardon et que le Seigneur me purifie et que finalement la paix qui est nécessaire au sein de ma famille demeure. L'attitude d'humilité consiste effectivement à réaliser cela. C'est facile de dire « Pardon Seigneur ». C'est ô combien plus difficile d'aller trouver son frère, sa sœur et de dire « Pardonne-moi, je t'ai blessé ». Matthieu 5, 23 déclare « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Autrement dit, le Seigneur ne prend pas plaisir à nos offrandes lorsque nous laissons pourrir des situations qui doivent être réglées. Et l'offrande, ce n'est pas que les dons que nous mettons dans le fond, dans les troncs. L'offrande, c'est notre culte. L'offrande, c'est notre don de ce que nous pouvons apporter, qui vient de notre cœur à Dieu. Est-ce que le Seigneur a créé cela? Est-ce que le Seigneur trouve cela juste, bon, lorsque nous agissons ainsi? Servir le Seigneur, c'est faire comme disait Jésus. Mon heure n'est pas venue. C'est être dans le temps de Dieu. Parfois, dans notre enthousiasme, nous oublions que c'est le Seigneur qui appelle. Alors, on veut faire des choses. Eric disait tout à l'heure, être touché par le Seigneur, ce n'est pas faire des activités. Ce n'est pas ça le plus important. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est ce que le Seigneur veut de nous, c'est notre cœur. Est-ce que mon cœur est à Dieu? Ne nous tourmentons pas du fait de ne pas faire X ou Y dans l'Église, mais préoccupons-nous de ma relation, de notre relation avec l'Éternel. D'un autre côté, n'empêchons pas aux autres de servir. Lorsque le Seigneur appelle, reconnaissons les dons, offrons la possibilité, laissons l'œuvre de Dieu avancer. Ne soyons pas des entraves parce que nous avons nos préoccupations charnelles, parce que nous avons nos critères charnels. Lorsque dans ces courants, on fixe un jour pour se laver les pieds et que tout au long de l'année, on est peu aimable, on est égoïste, on ne pense qu'à soi-même, à quoi sert alors ce lavement des pieds? Lorsque notre cœur est loin de l'Éternel, ne tombons pas dans le folklore. Soyons authentiques avec Dieu. On ne trompe pas le Seigneur. Il connaît la réalité. Et le verset 16 marque ici une insistance. En vérité, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une attitude empreinte d'humilité dans la famille de Dieu. Cette famille est particulière. Elle est spéciale. Elle a une destinée exceptionnelle. L'Église est précieuse aux yeux de Dieu. Christ est mort pour l'Église. N'ayons pas un regard distrait vis-à-vis de l'Église. Elle compte pour l'Éternel. Il n'aurait pas donné son Fils pour cela, si ce n'était le cas. En conclusion, je pense que nous pouvons avoir une double lecture de ce texte, en ayant comme fil conducteur le lavement des pieds des disciples par Jésus. Premièrement, l'acte posé par Jésus est un symbole de ce qui vient. Il représente la mort expiatoire et purificatrice à la croix. C'est par sa mort à la croix que chacun de nous reçoit la purification sans laquelle nous ne pouvons avoir accès au Père. Deux, le fait d'être purifié par Christ est une garantie de posséder un héritage dans le ciel. Et c'est ce qui explique l'empressement de Pierre. Pierre ne veut pour rien au monde être séparé de Christ. Cela est comme marqué dans le marbre. Mais soyons conscients qu'il faut que la première proposition soit vérifiée. Les disciples, je l'ai dit, sont purifiés par anticipation, puisque le passage à la croix n'a pas encore eu lieu. Troisièmement, Christ ne veut pas faire de nous des enfants capricieux et gâtés, ceux qui ne regardent qu'à leurs droits. Jésus commande que la famille nouvelle que nous formons soit un miroir de son amour les uns pour les autres. Il est difficile d'aimer vraiment si on manque d'humilité. Dans l'Église de Christ, servir le Seigneur doit se faire dans l'humilité, les uns par rapport aux autres. Nous sommes appelés à vivre cette humilité véritable. Je disais à Paul ce matin que j'ai été bouleversé à l'étude de ce texte pendant ma réflexion et je voudrais marquer un temps d'arrêt ici pour demander pardon aux uns et aux autres si j'ai blessé quelqu'un par mon attitude, par mes paroles. Et je vous demande, si vous le souhaitez, si votre communion avec Christ est perturbée à cause de cela, si la communion fraternelle n'est plus, de venir me trouver et pour que nous puissions en parler. Que le Seigneur nous aide à vivre cette authenticité dans son Église. Nous voulons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole, merci pour ta patience envers nous. Merci pour ton Église, merci pour la patience les uns des autres. Merci pour l'amour que tu manifestes à notre égard et tu veux que nous puissions vivre cela clairement. Seigneur, que ces paroles résonnent dans nos cœurs et que ton Église connaisse la joie de te servir et l'amour les uns pour les autres. Amen.